Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Donc si vous aimez le sport et le développement personnel ou que vous êtes tout simplement curieux d'en savoir un petit peu plus sur des athlètes inspirants, je suis sûr que ce podcast vous plaira. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Azou. Jérémy est aussi appelé l'extraterrestre dans le monde de l'aviron. Ça lui a valu son invitation sur le podcast. En effet, Jérémy a vraiment tout gagné, que ce soit des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe et des championnats de France. Et pourtant, son plus beau titre, le titre olympique, lui laisse un souvenir un peu douloureux. On verra pourquoi. Et il nous dira même que ça ne fait pas partie de ses meilleurs souvenirs sportifs. Mais surtout, on reviendra sur son parcours et ses prédispositions étant jeune. On reviendra énormément sur sa préparation et sur la façon dont il a décidé de ne rien laisser au hasard pour devenir champion olympique. Vous allez vite comprendre que Jérémy est une grosse machine. C'est un homme qui adore l'entraînement, mais c'est aussi un humain qui a beaucoup de sourires et qui avait beaucoup d'enthousiasme à faire ce podcast. Je me suis très bien entendu avec Jérémy et j'espère que vous le ressentirez. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est le premier épisode que je tourne à distance puisque Jérémy a pris sa retraite et qu'il a suivi sa femme à Vancouver. Du coup, on a fait ce podcast par Skype, c'est le premier. Donc vous allez voir que la qualité du son est légèrement moins bonne que d'habitude. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais vous verrez, l'interview de Jérémy en vaut vraiment le coup. Juste avant de vous laisser avec mon invité, je vous rappelle qu'un exploit se réalise toujours avec un excellent public. Donc je compte sur vous pour me filer un petit coup de main et pour m'encourager en vous abonnant déjà, en parlant du podcast autour de vous et en mettant une note sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. C'est vraiment ce qui m'aide le plus et c'est vraiment ce qui va permettre au podcast de rentrer dans la légende, je l'espère. Et une dernière chose, évidemment, le podcast est présent sur Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre pour voir un petit peu les coulisses du podcast. Et plein d'autres petites surprises vous attendent sur le compte Instagram. Voilà, je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Jérémy Azou. Salut Jérémy.
Bonjour Barthélémy.
Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast Extraterrien. Ça me fait super plaisir pour deux raisons. La première, c'est que je connaissais très peu l'aviron avant de m'intéresser un petit peu à ton sport. Et du coup, j'ai énormément appris et j'ai hâte de partager ça avec toi. Et la deuxième raison, c'est que là, en ce moment, tu es à Vancouver.
Exact.
Et c'est la première fois du coup que j'enregistre à distance, donc petite émotion et petit stress de la qualité, donc on va essayer de relever le challenge ensemble. Comme je te disais juste avant, la première question par laquelle je commence un peu tous les épisodes, c'est de te demander quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, je pense vraiment aussi loin que je me rappelle que mon premier souvenir de sport. Puis ça tombe à peu près bien, donc je sais pas si c'est la bonne réponse, mais ça tombe à peu près bien par rapport à ce qui a suivi les années derrière. Ça a été en colonie de vacances, parce que nous on est famille nombreuse, donc régulièrement nos parents nous envoyaient en colonie de vacances pour diverses raisons, et il y avait un triathlon qui était organisé.
D'accord.
Et bon, j'avais toujours été un peu hyperactif, donc je savais que niveau sport, ça allait pas trop mal. Et on a fait un triathlon et je me suis fait mais laminer en natation et ça a vraiment été, ça m'avait blessé, tu vois. Enfin, ce souvenir-là, je me rappelle, vraiment blessé dans mon ego. Et ça a été un peu le démarrage de pas mal de choses derrière, mais je pense que j'avais aussi une certaine estime de moi. Et puis voilà, je m'étais fait battre, pas à plate couture, mais vraiment, pour moi, c'était l'humiliation, même si dans les faits, je pense que ça restait juste une petite organisation faite par la colo pour nous divertir, tu vois, une après-midi en bord de plage. Mais ouais, c'est un souvenir qui me reste, même plus de 20 ans plus tard.
Ok,
Et
c'est marrant. Donc déjà l'orgueil du sportif, quoi.
ouais, alors après, bon, c'est des choses qu'on arrive à transformer, à analyser, à convertir, mais c'est peut-être l'analyse que j'en avais fait, enfin, c'est le ressenti, je pense, que j'en avais à l'époque, une espèce de
Ouais.
frustration, de déception. Voilà, en tout cas, c'est aussi loin que je me rappelle, il me semble que c'est le premier souvenir vraiment marquant, quoi.
Ouais. Et du coup, là, tu parles de triathlon. Tu as toujours eu une appétence pour les sports un petit peu de fond, étant plus jeune?
Alors, une appétence, oui, après, j'aime à dire que c'est le sport qui te choisit, c'est pas toi qui choisis le sport. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais poussé, mais qui m'ont toujours encouragé à faire du sport, et donc j'ai pu toucher à pas mal de choses, mais comme pas mal d'enfants, c'est-à-dire que étant tout petit, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait de la gymnastique, et puis après donc progressivement, j'ai toujours bien couru, puis je me suis progressivement lancé. Donc après cette fameuse histoire de colonie de vacances, j'ai décidé de m'inscrire en natation pour gommer un petit peu ces défauts-là. Et après, là, il y a eu un gros déclic qui s'est fait en natation. Mais oui, j'ai toujours eu une capacité, une facilité sur les sports de résistance et d'endurance, de manière physiologique et morphologique. J'avais tout le profil pour performer sur ces sports-là.
Ouais, mais au-delà de peut-être du petit avantage physiologique, est-ce que mentalement ça te plaisait aussi? Parce que c'est quand même très particulier, tu vois, c'est des sports où tu te mets vraiment à bloc et c'est mentalement c'est très dur, physiquement c'est très dur aussi. Est-ce que toi déjà jeune, tu avais le goût pour un peu pour le goût de l'effort, on va dire pour
Je pense, alors encore une fois, là-dessus, c'est ma perception des choses, mais je pense que bien sûr, il y a le paramètre intrinsèque, hein, il y a tes qualités innées, et je pense que l'environnement joue beaucoup aussi, c'est-à-dire que l'éducation que tu reçois, sans parler de rigueur, hein, dans l'éducation, mais je pense qu'il y a justement tout ça qui peut impacter directement ou indirectement ton positionnement et ta manière de, ta combativité face à la douleur, face à l'effort, face à l'enjeu, face à l'environnement. Et je pense qu'il y a vraiment tous ces paramètres-là qui se sont additionnés et qui ont fait que j'avais, donc, comme on l'a dit, des prédispositions, mais du coup, des bons résultats et par effet ricochet, un peu une appétence aussi par ces sports-là, quoi.
Ouais, c'est sûr que quand t'es bon, ça donne envie.
Surtout quand t'es petit, enfin, la notion de plaisir existe bien sûr, encore plus quand tu vas jouer au foot avec les copains, mais sinon pour le reste, voilà, y a pas 50 000 choses qui t'intéressent. C'est d'être le premier. Et puis en plus, on est dans un système quand même qui de comparaison et qui t'encourage à être parmi les meilleurs, enfin, dans le système éducatif, c'est travers aussi. Mais donc voilà, tout te conditionne pour que on valorise le meilleur, on valorise le premier. Et quand tu es dans un cercle vertueux qui fait que tu as des perfs, alors voilà, ça ne fait que t'encourager à aller plus loin et à aller te rediriger vers des activités qui ont des filières énergétiques similaires.
Ouais, d'accord, ok. Et comment est-ce que tu t'en es venu du coup à l'aviron après cette petite incartade dans le
Ouais, alors
triathlon?
donc il y a cet épisode quand j'étais en colonie de vacances. Après, donc j'ai fait 4 ans de natation quand même. Alors les 2 premières années,
Ah
j'ai vraiment
ouais.
réappris à nager entre guillemets parce que je savais nager, mais voilà, il y a savoir nager et puis savoir bien nager. Voilà,
Savoir nager, ouais.
toi qui fais du triathlon, t'en sais quelque chose. Il y a pas juste savoir flotter, il y a savoir après tourner les bras dans le bon sens et avancer. Donc les 2 premières années, j'ai vraiment réappris à nager. Et après les 2 dernières années, je me suis vraiment entraîné. Enfin, et c'est là où, encore une fois, c'est intéressant de faire le distinguo entre l'exigence olympique, où je pense que tous les athlètes seront sur un pied d'égalité en termes d'investissement quotidienne, bi-quotidienne, c'est-à-dire en termes de rigueur et d'investissement physique et psychologique. Par contre, l'écart dans les petites catégories est énorme. C'est-à-dire que moi, donc en 6e et en 5e, donc je nageais. Je m'entraînais, je nageais une fois par jour. Et à l'aviron, avant que j'arrive à un entraînement par jour, ça arrivait plus tard. Après, je faisais pas partie de ceux qui m'entraînaient le plus parce que j'avais des contraintes scolaires et extrascolaires qui faisaient que je pouvais pas m'entraîner plus, mais j'ai quand même mis plus de temps à l'aviron pour venir à un même niveau et à un même degré d'entraînement. Alors c'est bien et c'est pas bien, quoi. D'un côté, c'est bien parce que ça permet justement d'avoir des athlètes qui ont des carrières longues. Parce que moi, par exemple, le premier truc qui me choque en natation, pour y être passé, c'est que vite, ça te dégoûte, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, si tu fais des allers-retours, enfin, tu fais des longueurs, quoi. Et des gens comme Yannick Agnel et, bon, ben, malheureusement, Camille Bouffay, malheureusement, n'est plus là, mais des athlètes comme ça qui finissent à 22, 23 ans, champion olympique, qui se disent, j'ai pas envie de repartir. Enfin, c'est qu'on a un peu trop chargé la dose avant aussi, quoi. Encore plus sur
Ouais, complètement, ouais.
des sports qui, comme l'aviron, même si nous on est en extérieur, avec ses avantages, ses inconvénients, mais où c'est un sport cyclique, où tu fais tout le temps la même chose, et puis l'endurance, les sports d'endurance nécessitent du long, quoi. C'est-à-dire que tu vas taper 2 heures, 1 heure et demie, ou 2 heures minimum, faire tout le temps la même chose, avec des pulses à haute intensité, ou avec une très forte régularité. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu cet épisode de natation où j'ai vraiment beaucoup appris en termes de rigueur et de compréhension des mécanismes d'entraînement. Il va dire, tu t'entraînes, t'es bon, quoi. C'est-à-dire que la résultante est assez simple, et au-delà
Ouais.
des simples capacités intrinsèques, c'est-à-dire rien ne résiste à l'entraînement. Alors on peut pas être tous Michael Phelps, mais tu t'entraînes, tu seras bon, quoi. Et ça, alors je fais une parenthèse, mais quand j'avais un pote en équipe
Ouais,
de
c'est
France d'aviron, il me disait, bon, de toute façon, il y a pas de mérite à être bon quand tu t'entraînes. Et ça me faisait rire parce qu'il y a plus ou moins raison, quoi. Et donc après, bon, moi je me suis cassé la jambe en juillet 2002, et à la rentrée de septembre, j'ai appris la natation et baisse de morale, quoi. C'est pas que j'allais plus vite, hein, ça allait toujours bien au niveau des chronos, mais voilà, c'est une petite usure déjà psychologique de faire des allers-retours dans la piscine. Et là, c'est vraiment poser la question de savoir quel sport j'allais faire derrière. Donc au début, je voulais faire soit de l'athlétisme, soit du triathlon, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, que
Ok.
mes prédispositions à être plutôt bon sur les sports d'endurance et de résistance. Puis en plus, là, j'avais la natation déjà dans les pattes, donc il me suffisait juste de monter sur le vélo et d'aller courir, et puis ça aurait été pas trop mal pour le tri. Et à l'époque, ils n'avaient pas trop trop de sections là sur Villeneuve. À l'époque, avec mes parents, on habitait Villeneuve-lès-Avignon, à côté d'Avignon. Il n'y avait pas trop de sections qui collaient à ma tranche d'âge. J'avais 13 ans, 13-14 ans. Et c'était un peu moins populaire. Je te parle de ça, tu vois, tout début des années 2000, c'était encore un peu moins populaire qu'aujourd'hui avec ce qu'il y a
Ouais,
comme
tout à fait, ouais.
process qui a été mis en place aussi avec les ultramarathons, quoi. Enfin, les ultramarathons, les
Ouais.
triathlons, quoi. Les
Ouais,
ultralongues de
les ultra
France.
longues distances sur
Et
les
le
triathlons, ouais.
hasard a vraiment fait. Alors, de ce que je m'en souviens, c'est mon père qui m'avait proposé d'essayer l'aviron. Je t'avouerai, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Et j'y suis allé un peu en traînant des pieds pour lui faire plaisir. Et la première séance, en fait, j'ai retrouvé des potes d'enfance que j'avais perdu un peu de vue parce qu'on avait déménagé. Et au début, je suis resté pour les potes. Et donc, après de fil en aiguille, j'ai
Ok.
rencontré
Et...
Vincent Bernard, qui a été mon entraîneur première année, qui m'a donné envie. Et puis, l'ambiance était super. Et puis, de fil en aiguille, après, les résultats sont venus très rapidement, ce qui m'a fait continuer jusque il n'y a pas très longtemps. Mais voilà pour la petite aventure.
D'accord, ok, ouais, bah c'est sûr que c'est une belle histoire. Tu as mentionné aussi le fait que tu sois resté pour les potes. Moi, j'ai quelques amis qui font de l'aviron ou qui en ont fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une ambiance qui est très soudée et que c'est presque une deuxième famille, les gens qui rament ensemble. Est-ce que c'est. Enfin, tu viens de le confirmer, mais est-ce que tu peux le développer un peu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu dans d'autres sports ou qu'est-ce qui fait que c'est si unique finalement
Alors
cette ambiance-là?
ouais, pour donner des images aux gens. Alors bien sûr, déjà, par définition, c'est un sport d'équipe. On peut pratiquer en individuel, ça n'a pas de souci. Mais
Ouais, mais
de
c'est un sport
manière,
d'équipe principalement.
majoritairement, c'est un sport d'équipage. Et après, bon, les images par le passé sont assez lourdes. Là, on parle de sport de galérien, rien que en termes de sémantique, c'est-à-dire ramer, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est censé
Ouais.
galérer, quoi. Donc, il y a tout ça déjà autour de la sémantique qui peut faire que ça noue des liens particuliers. Après, il y a l'intensité de l'effort. Mais je pense que ça, c'est propre à toutes les activités où il y a une grosse dose, pas forcément de stress, mais un investissement psychologique et physique autour d'un seul et même objectif qui lie et rapproche les liens assez rapidement. Mais on le voit dans les services commando, on le voit dans tous ces tas de choses, c'est-à-dire à partir du moment voilà, où tu mets toute ton énergie au service d'un intérêt commun, rapidement tu te rends compte que tu peux pas faire cavalier seul, quoi. Sinon,
Ouais.
la seule solution face à un élément comme ça dans un groupe, c'est de le mettre à l'écart, parce que tu sais que ça met en péril l'objectif et le bien commun. Donc il y a ce deuxième paramètre-là, grosso modo, en aviron, un 8, on va parler du bateau roi, entre guillemets, le plus long bateau en aviron, c'est un peu comme une mêlée en rugby. C'est-à-dire que il suffit qu'il y en ait un qui pousse pas dans la même direction ou qui mette le genou à terre et toute la mêlée s'écroule. Et moi, j'aime à dire que l'aviron, ça reste le seul sport à ma connaissance, ou le seul sport collectif à ma connaissance, où vraiment les maillons de la chaîne sont liés de manière indéfectible. C'est-à-dire que le Barça peut organiser sa stratégie de jeu, son mode de jeu sur Lionel Messi. Je caricature, mais grosso modo, pour donner des images, voilà, tu as tous ces sports collectifs qui peuvent jouer sur une individualité et se sortir un peu de certaines mauvaises passes à travers une forte individualité. En aviron, c'est totalement impossible. Il n'y a pas
Ouais, il n'y a pas d'individualité en fait,
d'individualité
c'est
et
ça.
si un athlète s'arrête de ramer, l'embarcation s'arrête complètement. Et ceux qui, alors c'est pas très, enfin c'est plus ou moins bien et mal filmé, mais moi j'ai encore en tête la finale des championnats du monde de 2011 à Bled en Slovénie. 4-2 coups de poids lourd, et les Allemands, à 15 mètres de la ligne, ils sont premiers, mais ils ont 7-8 mètres d'avance, hein. Et ils font ce qu'on appelle une faute technique, une fausse pelle, c'est-à-dire que une des rames des athlètes se bloque un petit peu dans l'eau, et ils se font doubler, ils se font battre, quoi. Ils se font doubler par les Australiens qui sont 7-8 mètres derrière, un truc de fou. Enfin, et donc c'est vraiment indépendamment du niveau technique des athlètes, quoi. C'est-à-dire que c'est pas t'es débutant, bah forcément t'es un peu moins bon, ça va vachement pénaliser l'embarcation. Non, non, tu peux être niveau champion olympique. S'il y a un mec qui fait une erreur technique un peu trop importante dans le bateau, c'est l'arrêt complet, quoi. Et c'est en ça où vraiment ça crée des liens de fraternité, d'entraide, de cohésion qui sont hyper hyper important. Puis encore une fois, l'aviron, c'est un sport qui est pas très ludique. Enfin, je pourrais donner toutes les qualités pour faire la promotion du sport, mais si on fait tous les défauts, bah, c'est un sport qui est cyclique, on répète tout le temps le même geste. Voilà, on a toujours l'idée du rameur qui a un super bronzage parce que l'été il est toujours en extérieur. Enfin, l'hiver, quand il fait zéro, qu'il y a du brouillard, que tu as l'impression d'avoir les doigts qui vont tomber. Bon, il y a quand même plus de mois difficiles que de mois sympas à passer. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que tu as vraiment une cohésion qui est optimale et ça crée des liens d'amitié qui dépassent largement le simple carrière que tu peux avoir
Ouais.
international.
Bah, je trouve, ouais, ça se ressent beaucoup, en tout cas, quand on regarde de l'extérieur, des rameurs, on sent qu'il y a une espèce de cohésion et qu'il y a une équipe qui se soude, et je trouve ça assez beau, en fait, finalement, cette cohésion-là. Et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir là, dans ce que tu as dit, parce que tu as dit la répétition du geste. Et j'ai vu dans une de tes autres vidéos où tu disais que, en fait, le rameur, il est en permanence à la recherche du geste parfait et que tu essayes de reproduire et que pourtant le geste parfait n'existe pas et que tu es en permanence à sa recherche. Il n'y a pas un moment quand même enfin zut, excuse-moi, j'ai perdu ma question. Mais en gros, est-ce que tu penses pas aussi que c'est un peu ça qui fait que c'est un sport qui a du mal à être compris peut-être par certaines personnes qui se disent bah ramer une fois que t'as le geste c'est facile et puis en fait finalement le geste parfait il n'existe pas quoi.
Alors c'est comme beaucoup de choses, hein. Enfin, le geste parfait il existe. Après, c'est l'atteindre qui devient très très difficile. Le geste parfait en lui-même il existe. C'est une image, c'est une séquence d'images. Ça existe. Après, c'est l'atteindre qui devient un petit peu le parcours du combattant. Juste pour finir de répondre à la question que tu m'avais posée juste avant, ce qui est aussi, je pense, très typique de l'aviron, c'est que c'est le mec qui doit s'adapter par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Comme c'est un sport d'équipage, par définition. Le leader, le meilleur leader qui soit, en fait, c'est le coéquipier parfait. Tu vois, tu as un peu cette dualité où le meilleur intrinsèquement est celui forcément qui s'adapte, parce que bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Et s'il a conscience des mécanismes de performance en aviron, c'est-à-dire que la synchronisation donnera plus, toujours plus de performance que la simple somme des individualités. Donc voilà, à partir du moment où tu as compris ça, c'est-à-dire que quand tu es meilleur, au lieu d'imposer ta manière de faire, ton style de jeu ou ta technique, c'est à toi de t'adapter. Après, c'est une convergence, hein. Mais
Bien
de mon
sûr.
expérience, de tout ce que j'ai pu accomplir en termes de résultats, c'est vraiment le gros enseignement que j'en tire. C'est-à-dire que c'est généralement, in fine, au dernier moment, c'est toujours meilleur de s'adapter s'il veut vraiment que l'embarcation ait son niveau de performance maximale. Pour répondre à la deuxième question, le geste parfait existe. Après, encore une fois, c'est le parcours du combattant pour y arriver. Mais voilà, après, c'est aussi ce qui fait certains intérêts. Après, voilà, les gens, des fois, ont un petit peu du mal à... J'avais une réponse, là, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Les gens, des fois, ont un petit peu du mal à comprendre justement pourquoi on peut s'imposer ça en termes de rigueur, en termes d'investissement. Mais dans ça m'en revient, je voulais te dire quelque chose justement sur le fait d'avoir le geste parfait. Attends, ça va m'en venir, ça va m'en venir, ça va m'en venir, ça va m'en venir. J'avais un message, j'avais vraiment quelque chose que je voulais dire, ça m'échappe. Ouais, c'est à mon tour, ouais, un petit blanc.
Bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai vu dans une interview que tu faisais par entraînement, tu faisais jusqu'à entre 15 et 16 000 coups de rame à chaque fois. Dis-moi si je me trompe. Alors, peut-être pas
Oui.
après à tous les entraînements, mais
Non, mais oui, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je m'en rappelle, c'est bon.
vas-y.
Donc, en effet, par séance, alors une séance typique d'aviron, grosso modo, c'est 20 km. Ça représente, grosso modo, 1 heure et demie d'effort. Tout dépend, du type d'embarcation dans laquelle tu évolues, des conditions météo, de tous ces paramètres. Grosso modo, c'est 1 heure et demie et ça représente à peu près, moi j'ai fait les calculs, hein, c'est assez simple, entre 1005 et 1006 coups de pelle, 1006 coups d'aviron.
Ah ok, j'ai fait un fois 10, pardon.
Non, 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 c'est entre 1005 et 1006, sachant qu'on s'entraîne entre 1 et 2 fois par jour. Donc, moi, j'ai calculé, dans toute ma carrière, je donnais plus de 4 millions de coups d'aviron.
Ok.
Voilà. Pour donner, des fois, les chiffres, ça veut rien dire, mais ça fait sourire, quoi. Donc,
Ah,
en
c'est
effet,
sûr.
ça fait beaucoup, beaucoup de fois le même geste, avec cet objectif, et c'est ce qui fait à la fois la difficulté et puis l'intérêt du sport. Toujours se remettre en question, avoir cet idéal toujours en tête. Et les gens ont toujours l'impression de se dire, ah ouais, c'est super ce qu'ils font, ils doivent toujours se faire hyper plaisir à l'entraînement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et non, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a un nombre infini de sorties, que ce soit en individuel ou en équipage, où ben, sur les 1600 coups de pelle, il y en avait quoi? Il y avait 10-15 qui étaient vraiment pas mal. Et puis le reste du temps, tu cherches, quoi. Et c'est vrai que bon, sur le rendu visuel des fois de l'extérieur, les gens se disent ouais, c'est super, c'est super, et c'est ce qu'on essaye de donner en fait comme impression. C'est-à-dire que même si nous le feedback qu'on a est pas extraordinaire par rapport à en tout cas l'idéal que l'on cherche, visuellement de l'extérieur, le rendu est pas mal, quoi. Mais voilà, c'est à la fois bien et c'est à la fois aussi une malédiction, c'est-à-dire que tu es constamment frustré. Comme tu cours après quelque chose que tu vas potentiellement ne jamais atteindre, tu es plus ou moins constamment frustré. Donc c'est là aussi où psychologiquement, il faut vraiment trouver un vrai équilibre, parce que sinon tu fais une dépression. Hein. Et au bout de 3 ans, psychologiquement, tu t'effondres. C'est-à-dire que c'est pas tenable. Si tous les jours, entre 1 et 2 fois par jour, si tu rajoutes là-dessus, ben, l'intensité de l'effort, ça te demande une concentration et une force psychique qui est incroyable. Donc voilà, des fois, il faut aussi des périodes de jachère où, bon, tu essaies d'automatiser un geste qui est le meilleur possible sans forcément être dans la recherche d'amélioration. Voilà, il y a toujours un effet de yo-yo et un effet de ping-pong.
Ouais, ok, d'accord. Mais c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à la natation et au triathlon. Tu vois, il y a une interview de Vincent Louis, qui est numéro un français en triathlon, qui est un athlète mondialement reconnu et qui fait très, très, qui gagne très souvent des Coupes du Monde. Et lui, voilà, il dit exactement le même constat que toi, c'est nager. T'as deux trois coups dans ta séance qui te plaisent bien et le reste t'as envie de l'améliorer et du coup il faut être à la recherche en permanence de l'amélioration mais faut pas non plus culpabiliser
Ouais, que ça devienne
de t'as
maladie, parce
pas
qu'après,
de
sinon,
pas
tu deviens fou. Hein. C'est après,
ouais
tu deviens
et
fou.
mais du coup ouais, je voulais te demander un petit peu pour partir un peu sur ta carrière à quel moment tu as découvert un petit peu la compétition et à quel moment ça a été un peu tu as découvert vraiment le haut niveau?
Alors, bonne question. Alors, comme on se l'est dit tout à l'heure, j'avais bien compris quand même le mécanisme et la corrélation qu'il y avait entre entraînement et performance quand je nageais. Donc, je suis arrivé à l'aviron, je suis arrivé pas en milieu d'année, mais je suis arrivé peut-être novembre, décembre. Et donc, j'ai raté un peu le premier wagon et il a fallu que je me remette à niveau techniquement parce que je n'avais pas du tout remis par rapport à des copains qui, eux, étaient déjà là l'année d'avant en minime première année. Moi, je suis arrivé minime deuxième année. Et puis aussi par rapport au type d'effort. C'est-à-dire même si c'est de l'endurance, en termes d'effort, c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver en natation. Donc voilà, il y a eu une forme de
C'est sûr.
recyclage qui a dû se faire. Mais par contre, voilà, psychologiquement, j'étais déjà suffisamment solide et j'avais déjà cette expérience de me dire, t'inquiète pas, ça va le faire. Sois sérieux, sois rigoureux, et puis les étapes vont être franchies de manière assez spontanée et assez rapide parce que je savais par contre que j'avais un capital endurance qui était déjà présent, déjà constitué par mes années et mes entraînements en natation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc dès la première année, on a été au championnat de France. Et bon, même si le résultat, là, on finit 7e, je crois, et c'était pas le résultat qu'on voulait, parce je pense qu'on aurait pu jouer la médaille. La gagne, ça aurait été très dur, mais on aurait pu jouer la médaille. Et puis le goût de la compète, là, est vraiment revenu aussi par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, cette notion d'ambiance, qui était hyper importante pour moi. D'ambiance, le fait de retrouver les copains. Et puis après, les sources de motivation, elles ont été assez différentes. Au début, tu y vas pour la compète, mais tu y vas aussi pour voyager avec les copains. Et puis après, de fil en aiguille, bon, mais tu te rends compte qu'il y a possibilité de pousser le curseur un peu plus loin. Et puis bon, après, c'est pas sans concession, hein. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui vont se rajouter et c'est savoir jusqu'où tu es prêt d'aller. Tu es prêt, pardon, à aller dans les sacrifices, dans les concessions pour atteindre potentiellement, parce qu'il faut bien mettre des guillemets à chaque fois, potentiellement un objectif. Et bon, ben voilà, ça s'est fait par étapes, même si les étapes ont été assez rapides, parce que en 2008, je suis senior première année, je sors de 2 années junior où ça s'est pas trop mal passé quand même, sur le plan national et international, même s'il n'y a pas eu de médaille à la fin. Enfin, au niveau international, il n'y a pas eu de médaille à la fin, pas grand-chose, mais sur le niveau national, ça avait vraiment très bien marché. Et en 2008, je suis senior première année, je fais dans les 2 premiers français à la photo finish. Théoriquement, j'aurais dû aller au jeu. Voilà, après, il y a d'autres paramètres qui ont fait que je ne suis pas allé au jeu, mais voilà, enfin, le gap a été franchi très rapidement et j'ai très rapidement été mis dans le bain. Et puis, c'est après 2012, par contre, où là, je me suis libéré de mes contraintes universitaires et j'ai vraiment pu me challenger en me disant, bah, voilà, les 4 prochaines années, tu mets le paquet, tu t'entraînes à fond pour voir quel est ton vrai potentiel. Et puis après, tu fais le point et puis est-ce que tu veux continuer plus loin ou pas, tu verras, mais. Voilà, moi c'était vraiment ma philosophie une fois que j'ai vraiment compris que j'avais ce potentiel parce que le goût de la compétition a quand même toujours été là. Hein. Parce qu'en natation,
Ouais, ça sent.
ouais, pour revenir, ouais, puis pour revenir à la natation, les 2 premières années, je te disais, j'avais appris à nager, mais je voulais absolument pas faire de compétition parce que même si j'étais très compétiteur dans l'âme, je voulais pas faire de compétition parce que j'avais un manque de confiance en moi. C'était très paradoxal, tu vois, parce que j'étais très
Ouais.
compétiteur et très mauvais perdant, du coup, je voulais surtout pas. me mettre en compétition avec d'autres pour justement éviter, c'est une technique d'évitement classique, hein, pour éviter l'échec et du coup, voilà que ça crée un petit peu les désordres qu'on connaît. Et donc après ça, encore une fois, il y a eu un élément vraiment très déclencheur avec mon entraîneur de natation à l'époque et qui m'a permis de faire sauter ce verrou-là. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai pris un peu conscience de mon potentiel et puis un peu de tout ce qu'impliquait la course à ce moment-là. Entre guillemets, tout était lancé, quoi.
Ok, d'accord. Bah, je comprends mieux. Et du coup, ouais, tu disais en 2008, tu étais dans les deux meilleurs Français. Mais je crois que c'est quoi? C'est la fédération qui choisit ceux qui partent au jeu, c'est ça?
Alors toujours, toujours, quel que soit le pays, hein, c'est la fédération qui détermine. Après, tous les systèmes de sélection ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un peu figure d'exception, on a un système de sélection sur la valeur individuelle. Donc, tous les ans, tu es passé entre guillemets à la moulinette. Tous les ans, tu as un championnat de France individuel. Et la sélection se fait d'abord sur le paramètre individuel. Ce qui peut sembler plus ou moins paradoxal pour un sport d'équipage. Après, encore une fois, c'est des croyances, quoi. C'est-à-dire que c'est arrivé à se dire que si on met les meilleures individualités, statement, ça ira toujours plus vite que si on essaye de faire des combats, de savoir quelle est l'embarcation qui a la meilleure cohésion possible. Bon, les deux discours se tiennent. Le point négatif de ce système, c'est-à-dire que tous les ans, potentiellement, tu peux rechanger la composition d'une embarcation. Voilà. Ça, c'est pas. Potentiellement d'en repartir de zéro. Ça, c'est pas vrai parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de jours de stage dans l'année, ce qui permet de travailler sur un effectif élargi et donc d'anticiper potentiellement ce genre de désordre, c'est-à-dire ces changements d'équipier après le championnat de France. Potentiellement, c'est le reproche qu'on peut faire à ce système de sélection. Le gros avantage, si le staff technique fait bien son job, c'est que la porte reste tout le temps ouverte. Contrairement, encore une fois, si on peut revenir à d'autres sports collectifs où on va parler même pas que du foot, c'est-à-dire que maintenant, tous les sports où tu as une semi-professionnalisation, une professionnalisation, si tu n'as pas été en centre de formation à partir de 10, 11, 12 ans, et bien derrière, après, c'est compliqué d'entrer dans le circuit, quoi. C'est très, 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 très compliqué d'entrer dans le circuit. Alors qu'en aviron, bah, si une année tu es performant, tu te pointes, tu te qualifies, tu gagnes, bah, on se tape la main, tu mets du bleu, blanc, rouge, et puis si l'année d'après, t'es au fond, t'es fin de peloton, ben on se tape la main et puis on se dit l'année d'après, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même hyper stimulant en termes d'émulation de se dire que demain, entre guillemets, tu peux intégrer l'équipe de France. Rien ne t'en empêche. Après, c'est sûr que le mec qui a gagné 10 ans, si un jour il fait si une année il fait 5e, bon, il peut être repêché, quoi. Après, faut pas être idiot non plus, mais on peut lui donner une seconde chance. Mais voilà, ce qui fait quand même la force de ce système-là, c'est que tous les ans, tout le monde va reprouver sa valeur individuelle et la porte reste ouverte. Ça c'est quand même un point fort. Après, encore une fois, il faut que le management, les règles de sélection, qu'il y ait une bonne transparence, une bonne communication autour de ça, pour éviter justement que qu'il y ait
Qu'il y ait des injustices ou que des gens
exactement.
qui se
Mais
sentent
si au début de la
lésés.
saison, tu dis voilà, les critères sélection c'est ça, si entre guillemets il y a des changements au cours d'année pour blessure, pour contre-performance, ben, l'alternative, le plan A c'est ça, le plan B c'est ça, le plan C c'est ça, ben, tout le monde se tape dans la main si tout le monde est OK, et puis après roulez jamais si tout le monde s'entraîne à fond, et puis même sur les stages avec l'équipe de France, tu peux vraiment créer une dynamique positive pour que l'objectif commun soit que l'embarcation aille la plus vite possible, quels que soient les individus qui vont la composer in fine. Donc voilà, et puis donc la fédération en 2008 a décidé de mettre en confrontation notre embarcation, notre double, avec un autre double, savoir laquelle allait la plus vite, et à chaque fois on s'est fait battre. On a été mis en confrontation sur deux Coupes du Monde, et à chaque fois qu'il y a une confrontation directe, on était vraiment dans les mêmes courses, donc dans les mêmes conditions, à chaque fois on s'est fait battre. Donc toi, sportivement, t'es toujours déçu, mais objectivement, bon, en avantage, l'aviron, on a quand même cet avantage de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire, il est devant, la ligne d'arrivée, il est devant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des
Ça
juges
vient pas,
arbitres
ouais.
qui te mettent des notes, quoi. C'est-à-dire qu'il est devant, il est devant. Donc, même si toi, t'aurais aimé que l'issue soit différente, bah, la réalité, tu peux pas, au bout d'un moment, tu peux pas faire abstraction.
Bah, il y a
Bah,
un chrono,
exactement.
il y a une
Maintenant, on
photo
a des systèmes
finish.
de chronométrage qui sont quand même hyper pointus au millième. Donc, tu peux pas en faire abstraction, quoi. Voilà pour 2008 par rapport aux critères de sélection.
Ok, d'accord. Mais après, ouais, quand on regarde ton palmarès, tu as commencé à tout gagner à partir de ces années-là. Et en 2012, tu pars pour les JO de Londres. Et là, donc du coup, tu te retrouves en finale et il se passe quelque chose, une course très très bizarre que j'ai pu regarder. Qu'est-ce qui se passe réellement durant la course dans ta tête? Est-ce que tu peux déjà un peu expliquer aux auditeurs ce qui se
Bien
passe
sûr.
pour leur remémorer? Mais en gros, le bateau anglais fait arrêter la course après quelques mètres et du coup, comme si c'était un faux départ,
Oui.
la course est recommencée. Et voilà, j'ai pas tout compris exactement comment c'est possible que la course soit arrêtée
Ouais, bon, on va en parler.
comme ça, quoi.
Donc, ouais, pour revenir sur les médailles, moi, vraiment, les premières médailles que j'ai fait beaucoup de médailles d'argent. Quand j'ai commencé ma carrière, et je craignais devenir le deuxième poulie d'or, quoi, le poulie d'or de l'aviron français. C'est toujours un peu ma hantise parce que j'ai fait 4-5 médailles d'argent avant de faire une première vraie médaille d'or internationale. Ça, c'était la première. Et pour revenir donc sur les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, en 2012, donc l'embarcation, je dis pas les athlètes, mais l'embarcation est qualifiée l'année avant, l'année pré-olympique. Il y a le championnat du monde et à l'époque, les 11 premiers qualifiaient l'embarcation pour les Jeux. Donc là, j'avais qualifié l'embarcation avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Dufour, avec qui j'avais été déjà médaillé sur un championnat du monde. L'année d'après, donc, fameux championnat de France individuel, Stanley Delair, avec quelqu'un qui avait sensiblement le même âge que moi, pas Frédéric Dufour, sur les sélections nationales, et donc, et essayé légitimement dans l'embarcation. On fait une manche de Coupe du Monde, c'est un peu comme le triathlon, on a plusieurs manches de Coupe du Monde. On fait une manche de Coupe du Monde, et là, on gagne. En plus, c'est une manche de Coupe du Monde qui reste relativement prestigieuse. Donc là, ça amène la fédération à nous titulariser tous les deux dans cette composition-là pour les JO.
Donc ils changent
Voilà.
l'équipe quelques mois
Voilà. Alors après, avec
avant
ce
les
fameux
JO,
Stanley
quoi.
Delair, on avait déjà remis ensemble par rapport à ce que je t'expliquais, où voilà, il y a un travail déjà en amont qui avait été fait, donc on partait pas de zéro. On fait la dernière manche de Coupe du Monde, et là on fait deuxième à la photo finish, donc on fait premier ex aequo au classement général de la Coupe du Monde avec les Néo-Zélandais et les Danois. Donc vraiment, on arrive sur les Jeux Olympiques de Londres parmi les favoris. Alors pas grand favoris, mais quand même parmi les favoris pour le podium. Peut-être pas le titre, mais pour le podium. On passe. Alors, on savait que le bassin allait être compliqué. Moi, j'avais jamais ramé là-bas, mais on savait que les conditions étaient très changeantes, avec beaucoup de vent. Voilà, avec beaucoup
Il y
de
a beaucoup
vent.
de
Le
vent,
vent,
il me
pas
semble.
forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que quand je dis le vent dans le bon sens, c'est-à-dire que le vent, il soit. Ce qui compte, c'est que le vent soit dans l'axe. C'est-à-dire que nous, on fait pas de la planche à voile. Voilà, nous, on fait pas de la planche à
Ouais, que
voile.
ça
Donc, ce qui
arrive.
nous arrange, c'est quand le vent, il est dans l'axe, soit de face, soit dans le dos. Forcément, nous, on avance à reculons. Donc si on l'a de face, pour le coup, c'est bon plan pour nous parce que ça va plus vite. Si on l'a dans le dos, on va moins vite. Par contre,
Ouais, c'est
les
clair.
vents qui sont plutôt latéraux, vraiment, ça va nous déstabiliser parce que ça crée une vague latérale et techniquement, ça devient très 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 dur de gérer ce paramètre extérieur. Voilà.
De
Donc on passe
manœuvrer.
les séries, on gagne, on fait une bonne course, on tombe en demi-finale contre les Anglais qui étaient chez eux, on fait deuxième à une demi-seconde, mais vraiment, on s'en...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qu'on pouvait les battre, on n'avait pas fait notre meilleure course. Pour la finale, vraiment conditions météo très difficiles, vent de travers qui déséquilibre l'équité entre les différentes lignes d'eau, donc le tirage est redistribué. Donc on se retrouve au milieu du bassin et les Anglais un peu plus abrités. Mais c'est pas ça en fait le plus important. On arrive au départ bien préparé physiquement, psychologiquement, et on savait que le départ c'était quand même notre point fort. C'est quelque chose qu'on n'avait pas besoin de beaucoup travailler. Mais ça faisait partie de nos qualités naturelles de puncher. Le feu passe au vert, on part à fond, et moi j'avais bien repéré que dans les 5-6 premiers coups de pelle, il fallait vraiment faire très attention parce qu'il y avait une entrée terre en fait Il y a des digues de chaque côté du bassin et tu as donc un accès
Ouais.
marin qui permet d'accéder en fait à un bassin qui permet de faire la récupération et un bassin qui est juste le champ de course. Donc tu avais vraiment une énorme entrée d'air qui arrivait à ce moment-là et qui faisait rentrer beaucoup de vagues et qui allait vraiment déstabiliser tout le monde de manière technique. Et donc nous on l'avait bien anticipé, donc on fait un super départ canon et à ce moment-là donc on commet pas de faute technique parce qu'on avait bien prévu le coup, quoi. Et ce qui a été un peu moins le cas de nos amis anglo-saxons. Et c'est là où ce qui est complètement fou par rapport à cette histoire, c'est-à-dire que toute la vidéo est sur YouTube, c'est-à-dire qu'en plus on peut, les experts, enfin les gens vraiment du milieu, voient très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que bah, l'athlète anglo-saxon sort de son siège, on a des sièges coulissants là, et tombe de son siège. Et donc il existait en effet une règle qui avait été votée il y a des années, des décennies par la Fédération internationale, qui autorisait dans les 100 premiers mètres de champ de course de lever la main et de refaire courir la course s'il y avait casse technique. Bon, ça se
D'accord.
justifiait complètement parce que à l'époque les bateaux étaient en bois, enfin il n'y avait pas la même garantie technique que ce qu'on peut avoir maintenant.
Cette règle, elle n'existe plus maintenant?
Et alors bon, on va y venir, ouais, et donc il lève la main. Mais bon, moi j'en ai jamais trop voulu aux athlètes parce qu'en mettant, si j'avais vraiment été dans leur situation, je sais pas si j'aurais fait différemment. C'est-à-dire que tu es en course, en finale olympique chez toi, avec la possibilité de gagner, il t'arrive un truc comme ça, de toute façon t'as pas 50 000 alternatives et t'as une fraction de seconde pour choisir. Donc le mec il lève la main, l'arbitre arrête la course.
Bah sinon ils abandonnent de
Oui,
toute
de toute façon,
façon, donc
sinon c'est cuit. Vu la densité de la
toi
course, ils
t'es
sont
perdu là.
complètement out. Il lève la main, l'arbitre arrête la course. Mais bon, toi, t'entends, donc ils ont des cloches, la cloche sonne. Toi, t'es en finale olympique, tu te dis pas, attends, je vais m'arrêter, quoi. Enfin, tant que le voisin de droite et le voisin de gauche s'est pas arrêté, tu te dis dans le doute, on va quand même continuer un petit peu, quoi. Quitte à s'arrêter, autant s'arrêter
Bah
dernier.
ouais, c'est sûr.
Et donc, nous, on s'est retrouvés quand même à faire 200, 300 mètres, quoi, à fond. Donc finalement tout le monde s'arrête, retour dans les starting blocks, puis c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire que le juge arbitre est censé objectiver la casse matérielle, et là on voit très bien qu'il n'y a pas casse matérielle, quoi, c'est-à-dire que vous demanderez à n'importe quel, même je crois que les commentaires qui avaient été faits par un immense champion de l'avion, qui s'appelle Red Graham, il disait ouais bon, il avait bien constaté que c'était pas une casse matérielle, tout le monde le voit. En plus, c'est filmé, c'est ça qui est complètement dingue. C'est filmé, on voit bien qu'il n'y a pas casse matérielle. Et mécaniquement, ceux qui connaissent bien les embarcations, il n'y a pas de casse possible, à moins vraiment de prendre un énorme, énorme choc. Mais ce qui n'est pas du tout le cas, là. Là, c'est juste une faute technique de leur part. Et donc, on reprend le départ alors qu'il n'y avait pas casse matérielle. Et donc là, après, l'issue est beaucoup moins heureuse parce que même si nous, on arrive à rester dans notre bulle, à rester concentré, physiquement, quand on a fait 300 mètres à fond, on le paye cash, quoi, sur le deuxième départ, et puis l'effet de surprise était plus du tout là, c'est-à-dire que nous on était parti très très fort, ça faisait aussi partie un peu de nos envies pour déstabiliser les adversaires.
De
Bah,
stratégie.
à deuxième départ, ils ont bien compris ce qui se passait, quoi. Donc ça change complètement la physionomie de la course, et indépendamment voilà, du paramètre physique qu'il faut bien sûr prendre en compte par rapport à l'investissement, parce que théoriquement, une départ de finale olympique, il n'y en a qu'une, quoi. Donc voilà, tout ça fait qu'on termine au pied du podium. Et celle-ci était le début aussi d'un processus qu'on a mis en place sur la recherche de la performance et comment atteindre la performance quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de passer d'un statut de on peut le faire à un statut où on se dit on va le faire mais on ne sait pas de combien. Et ça a été très important. Et ça, c'est énorme en fait. C'est d'arriver à lister tous les paramètres extérieurs qui peuvent agir sur ta performance et lister tous les paramètres qui dépendent de toi et pousser le curseur au maximum de tous ces paramètres-là, surtout ceux qui dépendent de toi, bien sûr, parce que justement, ceux qui ne dépendent pas de toi ne doivent pas justement être pris en compte, pour que, in fine, tu passes la ligne et tu dis, voilà, on va gagner, on ne sait pas combien. Et ça a été le challenge en fait des 4 années suivantes.
Ouais, est-ce
Mais
que
grosso modo, voilà, pour dégrossir un peu 2012, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Puis je te dis, moi, j'en ai jamais trop voulu aux athlètes parce que tu te mets à leur place, tu sais pas ce que t'aurais fait, quoi. Tu sais pas.
Ouais, mais après, ça fait partie du sport, quoi. Il y a une règle, ils ont le droit de l'utiliser. Et
Voilà,
voilà.
et pour revenir sur cette règle-là, c'est que
C'était
l'année
un peu
d'après,
malchance.
la règle a été supprimée.
Ok.
Cette règle des 100 mètres par rapport à notre course a été supprimée. Et là, j'étais pas forcément d'accord. Parce que même si bah, nous, ça nous a entre guillemets, un peu porté préjudice. Mais bon, le matériel a énormément évolué, mais il reste encore la possibilité de casse matérielle
D'accord.
dans les 100 premiers mètres. Et moi, je trouve que c'est, pour parler vulgairement, je trouve que c'est une connerie. Enfin, même si c'était peut-être pour nous rendre hommage ou j'en sais rien, ou autant c'était pas du tout ça, mais même si c'est par référence à ce qui s'était passé nous en finale des Jeux, je trouve que c'est pas un bon plan parce que en effet, je pense que le risque zéro n'existe pas. Et il peut vraiment y avoir une casse matérielle dans les 100 premiers mètres. Et le jour où ça t'arrive, ben franchement, je trouve que cette règle était quand même bien faite. Là, le problème, c'est l'application de la règle qui a été peut-être un peu moins bonne, mais la règle en elle-même, elle se justifiait. Et c'est là où l'abrogation, tu vois, de cette règle, pour moi, elle n'est pas justifiée.
D'accord.
Même si, bah, sans cette règle, le jour J, on aurait été médaillé pour sûr, quoi.
Mais bon, on va pas refaire l'histoire et de toute façon tu t'es beaucoup
Non.
rattrapé après. Tu t'es...
Ouais.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu dis qu'à partir de, justement de un petit peu de cet échec, enfin, qu'on se le dise honnêtement, une quatrième place, c'est quand même assez dur, je pense, quand tu t'es préparé pendant plusieurs années. Surtout vu les conditions de course. Et donc tu dis que pour vous ça a été un nouveau départ pour votre duo qui était tout nouveau. Et qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place du coup pour aller tout enchaîner? Parce que après je crois il me semble en 2013 vous gagnez les championnats du monde, en 2014 aussi si je dis pas de bêtises. Non, deuxième, vous êtes deuxième en 2014.
Ouais.
2015, 2015 champion du monde. Donc c'était vraiment le début de d'une paire qui a très très bien marché. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez fait de la préparation mentale? Est-ce que vous avez intensifié vos préparations physiques?
Ouais, alors on a déjà essayé de tout pas numériser, c'est pas le bon mot, mais on a essayé de tout quantifier. On a essayé de tout quantifier. Tout ce qu'on pouvait en tout cas, au maximum, pour avoir une démarche, même si l'aviron ça reste un sport amateur, même si ça se semi-professionnalise doucement en France, parce qu'à l'étranger il y a quand même pas mal de pays qui sont déjà passés sur un modèle professionnel depuis longtemps. Après je dis professionnel, c'est pas des salaires footballeurs, mais les mecs font que ça à temps plein, et les nanas font que ça à temps plein.
Ouais.
Mais on a essayé de tout chiffrer, de tout archiver et donc de faire quelque chose de très scientifique. On a eu une approche très 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 scientifique de tous les paramètres de la performance.
Ça passe par quoi, du
Que ce
coup?
soit la prise.
Ouais.
Alors en termes d'équipement, ça a pu être bon, le classique cardio-fréquence-mètre, ça c'était vraiment un outil qu'on a beaucoup beaucoup utilisé. Après en termes d'équipement sur les bateaux, maintenant tu as quand même pas mal de choses sur les accéléromètres qui permettent de calculer à la fois les angulations, les angles de balayage de ta manière de ramer, la synchronisation avec ton coéquipier ou tes coéquipiers, avec des courbes de force qui permettent de savoir si c'est bien synchronisé aux différents moments du mouvement dans l'aviron, au moment de la poussée, mouvement des retours. Après, on a fait beaucoup de travail vidéo. Peut-être le seul versant qu'on n'a pas trop abordé, c'est le versant, on l'a abordé, mais peut-être de manière un peu moins poussée, c'est la préparation mentale. Parce que je pense qu'on avait déjà ça en nous, quoi.
Ouais.
Donc, il y avait un speech, l'entraîneur avait fait beaucoup de boulot là-dessus, mais je pense que c'est peut-être, s'il y avait un truc qu'on aurait pu pousser encore plus, c'est peut-être ça. Mais c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé également. Après, qu'est-ce qu'on
La
a fait?
nutrition
Après,
aussi, peut-être,
on a beaucoup
j'imagine.
travaillé.
La
Là,
nutrition aussi, c'est un peu un sujet que qui.
la nutrition, alors nous, c'était déjà un peu notre cheval de bataille parce qu'on faisait partie déjà de la catégorie poids léger.
Ouais.
Donc, on avait déjà ça qui faisait partie de notre quotidien. Mais encore une fois, on a essayé d'avoir une démarche très, très professionnelle. Après, en plus, on a eu l'avantage d'avoir un médecin qui était vraiment nutritionniste. Sur place, quand on était en stage, qui a pu vraiment nous apporter de l'expertise. Et sans tomber dans la dérive du complément alimentaire, moi, j'ai jamais pris un seul complément alimentaire. Et même si, entre guillemets, il a le label et l'accréditation, la démarche en elle-même me gêne de prendre quelque chose pour me sentir mieux, un produit transformé pour me sentir mieux. Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, c'est un peu l'antichambre du dopage. Mais après, c'est très subjectif. Et en fait, pour moi, C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses simples, basiques à faire avant. C'est-à-dire que la micronutrition, j'y crois. Mais pour moi, c'est la dernière pierre à l'édifice. C'est-à-dire que déjà manger équilibré, manger sain,
Ouais, avoir des bonnes
manger
macros.
intelligent. Voilà, déjà faire ce travail-là, c'est titanesque, quoi. C'est une énorme montagne. Et puis ouais, quand tu as réussi à faire ça 365 jours dans l'année, bah oui, tu rajoutes une pierre au truc. Mais souvent, c'est pour moi un peu la facilité de se dire, bah voilà, du coup, je vais bouffer mon McDo et puis demain, je prendrai mes compléments alimentaires qui font bien, qui font que ma prise de sang est nickel. Même si c'est autorisé dans la démarche, moi, ça me gêne énormément. Mais voilà. Autre chose qu'on avait beaucoup faite aussi, c'est par rapport, donc, vu comme c'est un sport d'endurance, on fonctionne avec micro-cycles et macro-cycles.
Ouais.
Là, on a des gros cycles de 3 semaines, travail foncé, une semaine de surcompensation, et puis c'est reparti, ainsi de suite. On travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle le système Suunto. C'est un système de prise d'information au niveau des cardiofréquences mètres et des rythmes respiratoires. Nous, on le faisait le matin au réveil. Et quand tu extrapoles les données, ça te permet de connaître en fait l'activité du système neuro et parasympathique. Et en fonction des profils, des courbes, ça te permet de savoir si tu es sur de la bonne fatigue ou de la mauvaise fatigue. Et si justement, il ne faut pas adapter les séances. Voilà, il y a tout un ensemble d'outils où on s'est équipé pour arriver à maîtriser au maximum le pic de performance pour.
Ok. En fait, finalement, vous avez essayé de rien laisser au hasard, quoi. Vous avez allé chercher des chiffres et...
Exactement. Voilà, tout à fait. On a les chiffres dans la mesure du possible. Après, ça a toujours des travers. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes trop avec des chiffres, des fois, c'est au détriment du
Ouais.
feeling. Et le feeling, c'est ce qui, le premier jour, a fait que tu as fait la différence avec les autres, entre un champion et un très bon athlète. La différence, au bout d'un moment, elle se fait là sur le feeling. Donc, au bout d'un moment, il faut faire très attention à ce que tous ces chiffres-là, toutes ces données, tous ces paramètres, ne viennent pas occulter le feeling de l'athlète. Parce que ça a pu être peut-être à un moment donné, pas la dérive, mais le risque. Et je pense qu'on a toujours eu cette intelligence de dire, in fine, on garde le feeling si vraiment deux informations sont un peu en concurrence. Et ça a toujours bien fonctionné, que ce soit en termes de fatigue ou en termes techniques. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, si on en discutait de manière collégiale, on arrivait à se dire, ouais, entre ce qu'on nous donne comme info et ce que nous on ressent et ce qu'on voit, ça colle pas et on a une intuition quand même, bah on va suivre vraiment l'intuition et le feeling des athlètes et puis éventuellement ce que voit l'entraîneur. Donc oui, et puis donc c'est tout ça qui nous a permis, donc ce que je te disais tout à l'heure, de passer d'un statut de on va peut-être gagner à un statut où on va gagner, on sait pas de combien. Mais ouais, il y a eu plein de péripéties. En 2013, malheureusement, on gagne les championnats d'Europe, on est invaincu sur la saison et puis mon coéquipier se blesse. Donc on ne peut pas boucler la boucle et terminer avec un titre mondial. En 2014, des gros problèmes de conditions météo en finale, on se fait battre à 9 centièmes par un bateau qu'on n'avait jamais vu. Enfin, tu vois. Et tout ça, à chaque fois, au lieu
Ouais.
de nous démonter, ça n'a fait que renforcer vraiment notre exigence au quotidien. Je dis pas que c'était facile, hein. C'est des coups durs, mais c'est-à-dire qu'au quotidien, ça ne fait que renforcer cette volonté, cette rigueur, cette envie pour que rien ne soit au hasard.
Ouais, c'est assez fascinant et enfin ça se ressent pas mal, je trouve, dans ton discours. T'es hyper précis, on sent que ça a été travaillé, que finalement la préparation elle était carrée. Et on en parlait juste avant de commencer l'interview. La discipline et la rigueur, c'est forcément, je pense, c'est l'élément commun à tous les sportifs de très haut niveau. C'est
Ah
être
ben
capable
c'est
de mettre en place des choses carrées, quoi.
rigueur et travail, hein.
Ouais,
Rigueur et
clairement.
travail. Et puis bon, après, encore une fois, ce qui est bien quand même, c'est que ce sont des choses que tu peux appliquer partout ou pour tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la
Ouais.
méthodologie, après, tu le dupliques à l'infini. Et c'est pour ça que généralement, nous, on a en aviron, donc, comme je te l'expliquais, c'est pas professionnel. Tous les athlètes, hommes et femmes, font des études.
Ouais.
Et on a beaucoup beaucoup d'ingénieurs de formation et souvent les rameurs font de très très bons ingénieurs, enfin sont très souvent appréciés dans le monde de l'entreprise parce qu'ils ont cette rigueur, ils ont cette exigence et puis ils ont ce sens du timing. Et ça, c'est incroyable de voir à quel point les gens n'ont pas le sens du timing. Et le sens du timing, c'est primordial pour un athlète, c'est-à-dire que vendredi 12 août 2016, la finale, c'est 10h45, c'est pas 10h46, c'est pas 10h44. Si tu es en forme à 10h50, eh ben, c'est super. mais personne ne l'aura
Ouais,
vu.
c'est fini, quoi.
Et si tu es en format 10h40, eh bien c'est super, mais personne ne l'aura vu. Et c'est là où moi, je déteste être en retard. Et c'est le principe du rendez-vous, c'est-à-dire que tu dis 10h, bah, tu es là pour 10h, quoi. C'est-à-dire que bah, si tu pouvais pas être là pour 10h, mais pour 10h05, tu dis 10h05. Et c'est pour ça qu'en aviron, je pense que voilà, on a des ingénieurs. Je parle des ingénieurs parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs, mais on n'a pas que des ingénieurs, mais de manière globale, tous les athlètes qui ensuite se reconvertissent, se reconvertissent bien sûr dans le monde de l'entreprise, ont quand même ces attributs et ces qualités qui font d'eux de bons éléments au sein d'un groupe. Mais voilà, rigueur et travail, ce sont les bases, hein.
Ouais. Mais toi, c'est assez marrant parce que d'ailleurs, dans les petites vidéos qu'on retrouve sur toi, il y a un truc qui revient souvent de ton entourage et de tes proches. C'est ta capacité à mener plein de projets de front et un peu à vouloir toucher à tout, à être très curieux et aussi à vraiment voilà, à mettre des objectifs sur plein de choses. J'ai vu que tu faisais du piano très bien d'ailleurs et tu es kiné à côté de ça. C'est quoi un petit peu, tu peux nous dire un petit peu quand tu t'entraînais justement pendant cette période, à quoi ressemblait une de tes journées? Parce que je pense que ça devait être hyper carré et bien rempli en tout cas.
Ouais, alors la première chose, et c'est là où on a tous un rôle de partage d'expérience et de transmission un peu, c'est à partir du moment où tu sais comment les choses fonctionnent, tout devient relativement simple. Et c'est ce qui m'a permis de faire toujours beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire que j'avais une très bonne, aussi de par mes études, une très bonne connaissance de mon corps et une très bonne connaissance de comment fonctionnaient les systèmes d'apprentissage. Et à partir du moment où tu as compris tout ça et que tu sais comment ton corps fonctionne, ah voilà, tu sais qu'il y a différents types de mémoire, et après, une fois que tu arrives à identifier celle qui te correspond le mieux, et comment il est facile, entre guillemets, de mettre ça en place dans une routine quotidienne, mais c'est simple, c'est-à-dire que, et des fois, après, il y a des trucs qui sont très simples à mettre en place. Moi, j'avais écouté aussi, parce que la première année, avant d'être en kiné, j'étais en médecine, il y avait juste un cours spécifique sur la mémorisation, et ça avait été top. Il y a plein de choses qui avaient été dites et dont je me suis servi et dont je me sers encore tous les jours. Première chose déjà, ça c'est pour tous les étudiants. Il y avait des études qui avaient été faites et des questionnaires qui avaient été posés à pas mal d'étudiants. Je crois que c'était Polytechnique. Je ne veux pas dire une bêtise, mais en tout cas c'était des étudiants de grande école. Et ils expliquaient qu'une des techniques assez faciles pour gagner du temps sur le travail, c'était sur le chemin du retour, fin de journée, de se repasser en boucle tout ce qui avait été fait sur la journée. Se repasser le film, se repasser la bande passante. Et rien que ça, en fait, tu réactives tes boucles de mémoire, et quand tu arrives le soir devant ta feuille, t'es pas trop largué, quoi. Déjà, tu pars avec un capital. Et tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est du temps gagné. Après, tout ce qui est travail de mémorisation mentale, alors moi, je suis plutôt visuel. Et du coup, c'est simple, c'est comme le principe de la pub, c'est-à-dire que tu te mets une feuille sur la porte de tes toilettes, et tous les jours tu passes devant, et le fait d'être passé devant 2, 3 fois par jour pendant un mois, ben, de manière inconsciente, plus ou moins inconsciente, parce que la lecture sera pas forcément très active, tu vas engrammer tout ça. Donc c'est ce qui m'a permis vraiment de mener plein de projets de front, parce que j'arrivais à optimiser tous ces paramètres-là, laisser aucune place au temps mort, même si des fois il y a des phases de repos, mais pour moi les phases de repos c'est pas des temps morts, c'est vraiment des phases de repos. T'es censé te ressourcer, ou même si tu fais rien, c'est un objectif précis. Et les journées types, pour vraiment répondre à la question, donc après 2012, vraiment quand je suis rentré sur une phase active d'un point de vue professionnel en tant que kiné, tous les matins je me levais et j'allais ramer vers 7h15. Entre 7h15 et 7h30, j'étais sur l'eau jusqu'à 9h15, 9h30. Après, je rentrais rapidement parce que j'étais juste à côté du pôle France. Hein. J'avais fait en sorte de perdre le moins de temps possible aussi dans les déplacements. J'habitais sur Lyon, c'est sûr que si t'habites à l'autre bout de Lyon, t'es mort. Hein. Encore plus maintenant, en 10 ans, moi j'ai vu l'évolution, la circulation, c'est devenu une vraie catastrophe. Et donc, je perdais vraiment très peu, très très peu de temps sur les déplacements. Donc voilà, de 7h15 à 9h15, je ramais. 9h15, 9h20, je rentrais à la maison, je me douchais, je mangeais une petite collation et après, 10h moins le quart, je prenais la voiture, j'avais un quart d'heure de voiture jusqu'au cabinet pour être à 10h mon premier rendez-vous. Là, je bossais. Alors, la première année, ça a été vraiment dur parce qu'il y a eu des difficultés pour la fédération de mettre en place un accompagnement financier sur les jours où j'étais en stage et puis le manque à gagner sur la semaine aussi. Donc là, on va pas parler de la première année parce que c'est une année un peu à part où c'était vraiment très, très dur de concilier tout à la fois. Mais sur les autres années, donc je terminais généralement à 16h30, 17h. Donc je faisais 10h, 16h30, voire 17h. Je prenais une demi-heure pour manger le midi. Et après, je retournais à l'entraînement de 17h30, on va dire, le temps de rentrer à la maison, pareil, prendre une petite collation et repartir au pôle en vélo. 17h30, et là, c'était très variable. Ça pouvait être jusqu'à 18h30, 19h sur des petites séances. Ça pouvait être jusqu'à 20h, des fois 20h30 sur des grosses, grosses séances, type séance de musculation qui pouvait durer des fois 3 heures. On a des fois des très, très longs entraînements avec des formes de circuit training. Donc voilà, et puis après je rentrais à la maison, tu te douches, tu manges, et puis des fois moi j'avais pris d'autres activités. Il y a des trucs que je m'étais bien marré et j'étais content de le faire, j'étais allé faire de la danse de salon. Et du coup, de deux, trois fois par semaine, des fois j'allais faire de la danse de salon. Moi je trouvais ça cool, tu vois. Voilà,
Ok.
sinon je faisais autre chose.
Après avoir ramé 4 heures de la journée, tu avais encore la force d'aller danser, quoi.
Ouais, après encore une fois c'est toujours pareil, hein. Il faut toujours faire la différence entre manque d'envie et fatigue réelle. C'est-à-dire que le manque d'envie est chronique chez tout le monde. On n'a pas envie de faire grand-chose si on se met pas un coup de pied aux fesses. Et là, toute la difficulté, même que tu sois athlète ou pas athlète, c'est de savoir si c'est un manque d'envie ou si c'est vraiment que tu es réellement fatigué. Auquel cas, moi, ça m'est arrivé des fois de pas y aller parce que vraiment, j'étais fatigué. Et je sentais que si j'allais pas me coucher tôt, et quand je parle coucher tôt, encore une fois, ça parle pas trop aux gens. Il faut bien comprendre que toutes les heures de sommeil passées avant minuit, elles comptent pas double, mais presque. Donc pour moi, me coucher tôt, c'est-à-dire à 9h, t'es dans ton lit, t'as éteint la lumière, tu dors.
Ah, bien
Coucher
sûr.
tôt, c'est pas... Et faites l'expérience. C'est-à-dire, faites l'expérience, couchez-vous à 9h et vous réveillez-vous à 6h, ça vous fera 9h de quota de sommeil. Et couchez-vous à minuit, réveillez-vous à 9h, vous verrez, on se sent bien, quoi. Vraiment, on se sent bien, quoi. La récupération est vraiment pas la même. Je
Ah,
parle
ça n'a rien à voir.
sur des conditions équivalentes, où on a vraiment l'impression de ne pas avoir été réveillé, qu'il n'y a pas eu de bruit, qu'on a relativement bien dormi. Donc voilà, une journée type... multiplié par quasiment par 7 parce que je travaillais pas le week-end, mais voilà, tous ceux qui s'entraînent pour le très très haut niveau, c'est samedi dimanche, j'en fais.
Ouais, bien sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, enfin, sur le sommeil et la récupération. On parle de plus en plus d'entraînement invisible. Tu sais, un peu de. Bah, finalement, ouais, effectivement, optimiser son sommeil, optimiser sa nutrition. C'est quelque chose que tu vous. Qui est concrètement pas des heures d'entraînement au sens propre du terme. Mais en fait, elles sont primordiales pour la réussite d'un athlète, quoi.
Ah ben,
Et le sommeil, c'est le
de toute façon,
premier.
l'heure limitant, je suis désolé, je te coupe, l'heure limitant, c'est la récupération. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on se dope souvent. La majorité des gens qui se dopent, c'est retour de blessure. Parce que c'est trop long, parce qu'on récupère pas assez vite. Alors après, bon, sans parler des dopages d'État, mais avec les scandales qu'on connaît, mais la principale cause, c'est souvent ça. Revenir plus vite au niveau. Et le repos fait
Ouais.
partie de l'entraînement et comme t'as raison, hein, complètement, c'est des heures invisibles, ça. C'est des heures invisibles, puis on est happé par une spirale infernale où il faut toujours en faire plus, où il y a une forme de culpabilité qui s'installe quand on en fait moins, parce que bah justement peut-être on est trop crevé. Mais et puis des fois, selon le groupe dans lequel on est, ça peut être aussi un problème d'image. On a l'impression peut-être que c'est un aveu de faiblesse. Ah, il va se coucher, il va faire la sieste, une petite chochotte. Voilà, donc, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent rentrer en jeu, qui sont très archaïques. Hein. Mais en effet, hein, le repos fait partie de l'entraînement. C'est toute la complexité que l'athlète peut rencontrer dans sa préparation. Hein, c'est d'arriver à avoir cette sagesse des fois, de pas culpabiliser, de se dire, voilà, c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, si je passe à côté de ça, bah, potentiellement, je peux vraiment me blesser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on respecte pas cet équilibre, le corps a toujours le dernier mot, hein.
Ah, mais
D'une
c'est
manière
sûr.
ou d'une autre,
Ouais.
le corps en aura toujours le dernier mot.
Ouais, c'est clair. Bah écoute, ouais, le temps avance beaucoup là
Ouais.
et je voulais un peu avoir ton récit sur les JO de 2016. Du coup, c'est un petit peu la consécration du sportif. Là, alors, rebelote bis repetita, on te change de partenaire avant pour ces JO-là, avant Rio. Ça n'a pas été quelque chose de dur pour toi de t'entraîner avec quelqu'un pendant 4 ans et je pense que vous aviez le même objectif, vous avez partagé des choses très fortes parce que lui a eu un accident très grave avec un bateau, on l'a très peu abordé mais je pense que ça a dû vous faire peur en tout cas. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quelques mois avant, quand on te dit que l'équipage doit changer, du coup?
Bah, ça a vraiment été une année difficile humainement parce que pour plein de raisons, c'est-à-dire que l'année d'avant, Pierre Rouin avait déjà été mon dauphin sur les championnats de France. Donc, potentiellement, il aurait déjà pu être essayé dans l'embarcation. Ce qui a été fait, mais pas sur la scène internationale. Donc, c'est toujours plus difficile d'interpréter le potentiel d'une embarcation quand t'as pas de concurrence directe et, on va dire, entre guillemets, stable, dont le niveau de performance est connu. Et puis du coup, bah, en fait, le problème de 2015 s'est reporté sur 2016, c'est-à-dire que ça change rien, après avec des enjeux différents, et puis après avec des problèmes de riches. Le gros truc, c'est que c'était un problème de riches, c'est-à-dire que le bateau est champion du monde. Donc, comme disait Coluche, est-ce que plus blanc que blanc, ça existe? Je sais pas. Donc voilà, c'est toute cette problématique-là qui rentre en jeu avec bah, le paramètre sportif qu'on a évoqué tout à l'heure sur des critères et un système de sélection qui est basé sur la valeur individuelle, où Pierre, en 2016, de manière quand même assez significative, fait deuxième, pas très loin de moi, avec quand même un peu d'écart avec la troisième place, donc qui était Stanley Hoeveler. Et donc là, tu rentres dans un processus où... Alors, je ne sais pas si ça n'a pas été suffisamment anticipé ou si, pour moi, ça a manqué de transparence. On parlait de transparence et de visibilité sur les règles de sélection. On n'a jamais vraiment su au début de saison comment ça allait se passer, quels que soient les cas de figure. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça crée une tension qui est horrible et presque intenable pour les athlètes. Parce que, in fine, c'est toujours un peu les athlètes qui traînent, quoi.
Bah bien sûr, bien sûr.
Sachant qu'avec Stani Doller, donc mon coéquipier de 2012, 2013, 2014, 2015, il y avait tout ce passé, tout ce passif, avec tous ces rebondissements, voilà, sa blessure dont on n'a pas du tout parlé, mais qui a été très grave, hein, il aurait quand même pu finir paraplégique, faut quand même le mentionner. Et puis de l'amitié, c'est-à-dire qu'avec Stan, on est très très proches. Donc voilà, tout ça a fait que l'année 2016 a été très dure. Et même si sportivement, c'est l'accomplissement de beaucoup d'années et que c'est l'objectif de n'importe quel rameur, c'est compliqué encore pour moi de dire quel est le vrai sentiment quoi, derrière le doré de la médaille. À chaque médaille son histoire et c'est vrai que quand on fait l'inventaire, bon, dans la balance, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de souvenirs quand même qui sont durs. Hein. Donc c'est pas tout rose et c'est pour ça que bon. Il n'y a pas trop de lumière qui a été mise par les médias nationaux là-dessus, mais ça a été rapidement évoqué, mais ça a été vraiment hyper dur et ça te casse hein, quand même humainement.
Bah
Donc
ouais, j'imagine. Enfin,
voilà, c'est vrai qu'il y a les paillettes, mais derrière, bon, il y a des trucs où t'as pas trop envie de raconter non plus, tu vois, c'est des choses qu'on pose la question, j'ai pas envie d'en parler parce que ça te renvoie à des souvenirs que t'as pas envie d'évoquer, qui te font pas forcément que du bien, quoi, même si, bon, ben voilà, on gagne la course, c'est super et tout. Voilà, c'est pas. Si tu me donnes le top 3 des souvenirs, je sais pas si ça fait partie, quoi, tu vois. Enfin, ça peut paraître incroyable comme ça, mais bien sûr, on est champion olympique et tout, c'est super. Enfin, ça change une vie malgré tout. Parce que en termes de reconnaissance, tu sors de ton sport. T'es pas juste champion du monde d'aviron. Là, t'es champion olympique. Et c'est là où, même dans la sémantique, on dit pas voilà, t'es champion du monde d'aviron, on dit non, pas, je vous présente le champion olympique. Tu sors de ton sport, t'as un statut social qui est différent. Et nous, c'est un sport amateur, donc quand tu prends 50 000 euros, ce qui était la prime du ministère pour le médaillé d'or, bah, quand tu as moins de 30 ans, je peux te dire, vis-à-vis de mes copains, quand tu fais un premier achat, bah, du coup, tu pars pas sur le même pied d'égalité, quoi. Déjà, tu vois l'avenir avec un petit peu moins de nuages. C'est sûr que t'achètes rien de cash, hein. Mais disons que bon, bah, ça te change un peu ton quotidien, quand même. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué encore pour moi de parler de cette année-là, parce que voilà, ça mélange beaucoup de coup de sentiment et c'est difficile voilà de dire quel est celui qui domine le plus quoi.
Ouais, je peux comprendre et si tu veux, on perd pas trop de temps dessus. Puis le temps passe, donc je vais te libérer, comme je sais que t'es jeune papa, les minutes sont précieuses. Mais du coup, je voulais rapidement terminer sur bah, un petit peu rapidement terminer sur cette interview. Est-ce qu'il y a des si disons que s'il y avait une chose que les auditeurs devraient retenir un petit peu de notre conversation, qu'est-ce que ce serait et c'est quoi un peu le message que tu fais passer aujourd'hui que ce soit en tant que kiné ou en tant qu'ancien athlète?
Bon, moi, j'aurais plein de messages à faire passer. Alors, on va d'abord s'adresser aux sportifs. Le message que j'aurais à faire passer, c'est, je pense, ce qui a toujours fait ma force, c'est de me dire que demain, tout peut s'arrêter. Et c'est hyper important, très jeune, qui qu'on soit, de se dire demain, tout peut s'arrêter. Vraiment de créer un plan B pour qu'il n'y ait pas cette dépression qui arrive et qui est foudroyante. S'il y a une blessure, s'il y a un impondérable, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important, quoi. Alors, je ne vais pas faire le moralisateur à dire faut faire des études, c'est bien. Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. C'est vraiment d'être dans la conception mentale de se dire demain, tout peut s'arrêter. Et ça, c'est fondamental, c'est hyper important. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut le démarrer très, très tôt pour justement éviter que vraiment, il y ait de la casse, hein, parce qu'après, vraiment, ça détruit. Ça peut détruire un individu, hein, ces dépressions, quand on a mis trop de billes dans un même panier et puis que tout s'arrête pour une raison X ou Y. C'est vraiment dramatique. Les dégâts physiques et psychiques sont vraiment dramatiques. Donc ça, ce serait le premier conseil aux jeunes générations, jeunes générations de sportifs qui veulent faire une carrière, bon, cette envie-là. Deuxième paramètre, ça serait plutôt au grand public, c'est que l'activité sportive, j'aime pas parler de sport parce que pour moi, le sport, de manière, dans l'inconscient collectif, ça implique souvent, compétition. Mais l'activité sportive, ou l'activité physique plutôt, est le meilleur moyen de se réapproprier son corps. Encore une fois, sans parler de performance. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui, on a perdu le contact avec notre corps, avec tout ça, ce qui fait qu'on devient plus notre propre maître.
Ouais.
On régit plus forcément tout ça, mais voilà, faites une activité, ça peut être danser, ça peut être. Alors, l'avantage de la course à pied, c'est qu'on prend ses baskets, on part chez soi et puis on va courir. Mais voilà, il faut bouger, quoi. Ça, en tant que kiné et puis même en tant que sportif, le fait de faire du sport, c'est un moyen de se réapproprier son corps. Et à travers ça, on retrouve du plaisir après. Et puis, parce que plus le corps est fort, plus il obéit, plus il est faible, plus il commande. Donc, on peut faire plus de choses et puis on déplace le curseur progressivement. Donc, voilà, ce seraient les deux enseignements que je pourrais donner. Est-ce qu'il y en a un dernier qui me vient en tête? Non, voilà, ne jamais perdre en tête la notion de plaisir. C'est important la notion de plaisir. Et dernier conseil, qui je pense est important pour tous les sportifs, encore une fois, voilà, dites-vous bien que dans 15 ans, personne ne se rappellera de vous, quoi. Ça vous évitera de courir après quelque chose et ça vous permettra d'arrêter le jour où vous le déciderez ou pas en P1. Voilà, ne courez pas après la notoriété. Si elle arrive, elle sera là, mais. N'attendez jamais rien d'elle parce que c'est juste une source de souffrance incroyable. Ce sera à peu près tout.
Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jérémy. La dernière question que je pose à chaque fois, est-ce qu'il y a un extraterrien ou peut-être un deuxième, un sportif que tu aimerais bien écouter sur ce podcast?
Alors moi, j'ai jamais été fan d'un sportif en particulier. Après, il y a des valeurs qui me font, il y a des valeurs que je trouve belles quand même. Là, on est en plein Wimbledon. C'est vrai que Federer, ça a toujours été un athlète dans son comportement qui a été, qui est chouette, je trouve. Dans son attitude, jamais contesté un point, toujours très, très sobre, ce qui donne beaucoup de classe, en fait. Donc, j'irai pas jusqu'à te demander d'interviewer, Roger Federer,
J'aime bien les challenges, donc ça
Mais
me va
bon,
fort.
au-delà de ça, moi, si j'avais vraiment quelque chose, une demande à formuler sur cette chaîne, c'est de continuer à mettre en lumière des gens qui sortent, voilà, un peu des sentiers battus. Voilà, il y a un circuit qui s'appelle les Étoiles du Sport qui, justement, met en lumière certains athlètes. Et des mecs comme Guillaume Nery qui ont fait de l'apnée, ouais, tu parlais d'apnée, des interviews. Des gens comme ça, c'est incroyable, quoi. Ça fait rêver. Et puis, c'est des parcours qui sont complètement atypiques. La course d'orientation, on n'en parle jamais, c'est incroyable. Bon, l'escalade, maintenant, ça va passer olympique, donc on va en parler un peu plus, mais voilà. Continuer à faire ce boulot-là, c'est chouette et ça fait du bien d'entendre un petit peu notre voix.
Ok, bon bah cool, bah merci beaucoup pour ces petites recommandations. Je vais suivre tes conseils. En plus, c'est un peu la voix que j'ai envie de donner au podcast, donc ça tombe bien. Merci beaucoup, Jérémy.
Bah écoute, Barthélémy, au plaisir, et puis encore merci pour ce temps.
Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé un excellent moment avec Jérémy. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. En description de l'épisode, j'ai mis toutes les références, les vidéos et les réseaux sociaux de Jérémy si jamais vous souhaitez suivre son actualité, ce que je vous recommande de faire. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.